Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je suis content de vous revoir et effectivement, comme tu disais, Martial, le Seigneur m'a parlé au travers de sa parole et je suis là comme un simple canal pour essayer de vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Alors, nous sommes dans la série d'études sur l'Épître aux Hébreux. Nous arrivons presque à la fin. Et la dernière fois, Philippe, il y a 15 jours, a partagé ce fameux chapitre 11 qui est dédié aux héros de la foi, comme vous le savez. Des héros qui sont humains, donc forcément imparfaits, mais qui, à leur manière, ont accompli des actes de foi que le canon des Écritures a jugé bon de retenir et de nous transmettre. Donc ça a été un choix. Et ça a été fait pour notre instruction. Il y a ce verset de l'Épître aux Corinthiens qui dit « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Alors, il parle bien sûr des Israélites dans le désert, mais je pense qu'on peut l'étendre à toute la parole de Dieu. « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction. » Et la plupart donc de ces héros de la foi, ils n'ont pas obtenu ni la délivrance, ni la justice ici-bas. Mais ils ont entrevu une délivrance céleste. Et c'est ça qui compte finalement. Parce qu'une délivrance ici-bas, elle est de courte durée. Il y a des gens qui ont été en prison, qui ont été délivrés, puis ils ont été remis en prison, donc c'est temporaire. Alors que la délivrance éternelle, c'est celle qui compte. Et surtout, plus important pour ces héros de la foi, Dieu a approuvé leur foi. Et finalement, c'est ça le critère essentiel. Dieu a approuvé leur foi, même s'ils n'ont pas reçu ici-bas ce qui leur avait été promis, nous dit la conclusion du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et on pourrait rajouter aussi à ces héros de la foi, tous les héros post-rédactionnels de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire tous les héros de la période de la grâce que nous vivons depuis 20 siècles, et surtout depuis la Réforme, puisque les écrits sont un peu plus récents, on en reparlera tout à l'heure. Philippe nous avait cité l'exemple de Georges Müller, que vous connaissez, le père des orphelins de Bristol, comme on l'appelait. Voilà, donc, ce matin, il nous reste deux derniers héros de la foi à voir, au chapitre 12. Et donc, l'un des héros a déjà été approuvé, et l'autre est en devenir. On le verra tout de suite après, mais je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et on va lire les 11 premiers versets. Donc, Hébreux, chapitre 12, c'est pas affiché normalement. Je vais lire dans la version La Colombe, qui est plus littérale, parce que vous verrez aujourd'hui, on a un texte à la fois très facile à comprendre et très difficile à en tirer des conséquences si on ne rentre pas un peu en profondeur. Je lis donc le texte. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas ? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeait et que nous avons respecté, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères en effet nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Jusqu'ici, donc, la parole de Dieu. Alors, comme je vous disais, donc deux héros de la foi encore à voir. Il y a bien sûr celui qui est le héros parfait, Jésus-Christ, le sauveur du monde. N'oublions pas que le thème central de l'Épître aux Hébreux, c'est tout ce qui est meilleur. Et le meilleur, c'est Jésus-Christ. Christ, on l'a vu, était supérieur à tout. Et ça a été la démonstration qui a été faite depuis le début jusqu'à ce chapitre. Donc Christ, c'est le héros par excellence. C'est le modèle, c'est celui vers qui tout converge. Et puis le héros potentiel, le deuxième, celui qui est en devenir, ben, c'est celui qui écoute ce matin la parole de Dieu, c'est-à-dire toi. Toi. Toi qui t'es repenti, qui a confessé Jésus-Christ, en qui Jésus-Christ est venu vivre, toi tu es un héros de la foi en devenir. Parce que sinon ça serait trop facile, on présenterait les héros de la foi, et puis nous on reste là plantés, c'est pas le but. Donc le but de l'auteur, aujourd'hui dans ce chapitre 12, c'est de nous montrer comment toi, tu peux devenir, moi, toi, tu peux devenir ce héros de la foi. Et on va le définir. Et j'aimerais vous lancer un défi ce matin. Qui aimerait devenir ce héros de la foi? Levez la main. Tout à l'heure, il y a eu 30 personnes pour la fête de Noël. Est-ce qu'on va faire mieux? Qui aimerait devenir ce héros de la foi? Super. On a une église motivée. Merci Seigneur. Alors pour les autres qui n'ont pas levé la main, je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi, tu comprends, moi je suis insignifiant. J'ai déjà tous mes problèmes à gérer. Les autres, oui, mais pas moi. Non, non. Et d'un côté, je vous comprends. Parce que moi aussi, je me considère un peu comme ça. Mais vous voyez, en lisant des biographies de personnes qui ont vécu pendant le temps de la grâce, et il y en a. Il faut que tu m'aides là à passer les diapos. Alors j'en cite quelques-uns. Voilà. Vous connaissez C.S. Lewis, cet auteur pour enfants, Cameron Townsend, qui a fondé Wycliffe, hein, la traduction, il était missionnaire au Guatemala, hein, il a apporté la parole de Dieu parmi les Indiens Kachikel, c'est le premier qui a commencé à traduire la parole de Dieu. William Carey, le savetier de Bombay, c'est le père des missions modernes, qui est parti en Inde, qui n'est jamais revenu quand il est parti de Londres. Corrie ten Boom, plus récente, Eric Liddell, hein, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 1924 en course, qui est parti en Chine et qui est mort là-bas. Alors j'en passe, hein, Billy Graham, Amy Carmichael aussi en Inde, qui s'est occupé d'orphelines, qui n'a jamais eu d'enfant. Mais voilà, je vous encourage à lire ces biographies. Vous voyez ce que je vous ai affiché là, c'est une série qui était aux éditions BLF. Mais je pense qu'à la Maison de la Bible, Françoise, je cherche Françoise, je pense que vous devez en avoir quelques-uns. C'est vraiment édifiant, c'est Geoff et Geoffrey Bench qui ont écrit ça, c'est une compilation, c'est facile à lire et vous avez des témoignages extraordinaires. Ben, tous ces gens-là, c'est des gens ordinaires, c'est ce que j'ai compris. Hein, c'est des gens qui n'avaient pas de prédisposition. Hein. Je vous parlais de William Carey, il n'a jamais été instruit. Son père était fabricant de chaussures, savetier, ben, il a appris ce métier-là. Et puis finalement, quand on lit ce qu'il a fait en Inde, c'est le père des missions modernes. Pour tous ceux qui sont passés en mission, partis en mission, tout ce que vous avez fait, bah, c'est William Carey qui a été le précurseur. D'accord ? Ils n'avaient pas de prédisposition particulière, mais ils avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient un cœur pour Dieu et pour les Écritures. C'est ça que Dieu demande. C'est quelqu'un qui a un cœur pour lui. Le reste, il s'en occupe. C'est lui qui qualifie. Je vous avais dit déjà plusieurs fois, George Muller, qui a été cité la dernière fois, vous savez combien de fois il a lu la Bible dans sa vie, en entier, du début à la fin? Je vous l'avais dit ça. 200 fois. 200 fois il a lu la Bible. Vous vous rendez compte, 200 fois sur une vie de 80 ans, ça fait ça, en moyenne plusieurs fois par an. Hein. Je ne demanderai pas qui a lu déjà la Bible une fois du début à la fin, c'est déjà pas mal. 2 fois, c'est bien. 10 fois, ce serait encore mieux. Mais George Muller, 200 fois. Et vous voyez, donc, ces héros de la foi, des gens ordinaires, comme vous et moi. Et notre but ce matin, c'est de voir comment le texte que nous avons lu peut nous transformer en héros de la foi pour Dieu. Et vous ne serez peut-être pas des héros connus dans le monde entier. Vous n'aurez peut-être jamais votre nom sur un livre. Mais au moins, un héros pour Dieu, bah, c'est quelqu'un, tout simplement, qui accomplit avec fidélité ce que Dieu lui demande de faire dans sa vie terrestre. C'est ça, en fait. Un héros de la foi, pour Dieu, c'est celui qui accomplit avec fidélité ce que Dieu lui demande. Parce que ce que Dieu lui demande, ça ne va pas être facile. Il y a quelqu'un qui nous met les bâtons dans les roues, qui s'appelle Satan. Et quand je veux faire la volonté de Dieu jusqu'au bout, ce n'est pas facile. J'ai besoin d'être, en quelque sorte, ce héros de la foi. Parce que toute la vie terrestre a des défis. Et le but pour nous, pour chacun de nous, c'est de parcourir cette vie terrestre pour pouvoir dire à la fin, tout est accompli. Comme l'apôtre Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et Jésus a dit aussi pareil, tout est accompli, il a fait la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait de nous des héros. Comprenez bien cela. Le vrai héros aux yeux de Dieu, ce n'est pas celui qui va accomplir des exploits, qui va en mettre plein la vue aux foules. D'ailleurs, Jésus, Satan lui a proposé, jette-toi du haut du temple, comme ça t'en mets plein la vue à tout le monde et tout le monde t'accueille comme le Messie et le héros. C'est ce qu'il lui a proposé, hein, Satan. Et Jésus, eh bien, il a refusé. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu, ce n'était pas cela. C'est celui qui aura fait la volonté de Dieu, ni plus, ni moins. Jaïrus, il a fait la volonté de Dieu. Il a cru à un moment donné que Jésus pouvait guérir sa fille. Et ça suffit, il est rentré dans la Bible. Et il y a des tas de héros anonymes qui ont fait la volonté de Dieu, qui n'ont même pas leur nom mentionné nulle part, sauf à un endroit, dans le livre de vie de Dieu. Et un jour, il y aura des récompenses. Et peu importe les défis que Dieu nous demande, parce que c'est Dieu et Dieu seul qui nous donne la capacité de les surmonter par la puissance de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui est à notre disposition. Et vous savez que le mot « puissance », qui est cité de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, c'est le mot « dynamite ». On a la dynamite de Dieu pour accomplir tout ça. Donc j'espère que ça s'éclaire, héros de la foi. Vous voyez un peu plus clair. Et moi, je pense que chacun d'entre nous, ce matin, on peut prendre ce défi et dire, Seigneur, fais de moi un héros de la foi. Pas un héros de la foi pour être acclamé, avoir son nom dans le Progrès ou dans le Figaro, ou je ne sais pas où, mais un héros de la foi pour être approuvé de Dieu, comme tous ces héros de la foi du chapitre 11 ont été approuvés par Dieu. Alors, qui est-ce qui veut devenir ce héros de la foi ? Levez la main encore une fois. Voilà, il y a un peu plus de mains là, je suis plus rassuré. Hein, je ne suis pas venu pour rien ce matin et le Seigneur n'a pas donné sa parole pour rien. Alors je sais que ce héros en devenir, dont je fais partie, il est plutôt craintif. J'aimerais mieux me cacher derrière mon pupitre. Je sais que peut-être vous auriez envie de vous cacher sous votre chaise. Et c'est normal, on est craintif dans ce monde. Regardez Moïse. Quand Dieu lui dit « Va délivrer mon peuple », Moïse, qu'est-ce qu'il dit ? Non, non, pas moi. Envoie qui tu veux, mais pas moi. » Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux a été construite de manière si pédagogique, et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui au chapitre 12, où ce défi est devant nos yeux, et c'est pour ça que ce chapitre commence par cette conjonction de coordination. Hein. « Nous donc aussi », pas de coordination, mais une conjonction, « nous donc aussi ». Vous voyez, dans l'Épître aux Hébreux, Dieu commence par montrer que Jésus est l'excellence suprême. Ensuite, il nous encourage tout au long de l'Épître à tenir ferme, à persévérer. Il nous prévient, ce n'est pas évident, c'est long. Par exemple, au chapitre 10, pour ceux qui écoutent sur l'audio, Hébreux 10, 35 nous dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense ». C'est vraiment cette notion de tenir ferme, persévérer, parce que le meilleur n'est pas encore venu. Il y a une grande récompense, mais elle est à venir. Elle nous présente les héros de la foi. Elle veut nous transformer en héros de la foi. Et puis, on verra dans la suite de l'Épître aux Hébreux, ce sera les fois suivantes, quelques applications pratiques. Voilà comment a été construit donc, l'Épître aux Hébreux. Et on va revenir donc à notre chapitre 12 sur le texte. Alors, quand on lit rapidement ces premiers versets, ça pourrait donner une impression de facilité. Il y a une course, une épreuve, il faut courir, les mots sont sympas. Je me souviens quand j'étais au lycée, on avait en cours de gymnastique, hein, comme maintenant, enfin maintenant ça doit s'appeler éducation physique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il fallait courir, on avait un stade, il fallait faire un 60 mètres, alors on se préparait, on courait le 60 mètres, on faisait notre possible, on était un peu essoufflés, puis après la course était finie, on récupérait, voilà. Alors on a l'impression en lisant ça que c'est un peu gentillet, quoi. C'est là, oh, faut courir, Jésus, oh, ben, il est devant, il nous a donné l'exemple, on court, vous voyez, c'est un plan en deux parties classique. Alors je pourrais vous faire un truc comme ça, un truc un peu classique, mais j'aimerais mieux qu'aujourd'hui on rentre dans la structure même du texte. Parce que vraiment, il y a des pépites derrière cette espèce de facilité sur laquelle on passe assez rapidement. Il y a des pépites, justement, qui peuvent nous aider à comprendre la nature des enjeux pour devenir un héros de la foi. Est-ce que c'est ce que je vous propose de faire. Vous voyez, dans la Bible, il y a deux mots en grec pour désigner les Écritures. Il y a ce qu'on appelle le grapha. Hein, ça a donné le mot calligraphie, c'est-à-dire c'est le texte qu'on lit, qui est écrit à la main. Vous voyez. Et ce mot, quand vous voyez le mot Écriture dans la Bible, c'est souvent le mot grapha. Enfin, un dérivé du mot grapha, je simplifie, je ne veux pas vous donner tous les termes grecs, ça ne sert à rien. Mais le plus intéressant, c'est de voir la structure du texte. Comment le texte est conçu et structuré. Et ce deuxième mot, c'est le mot gramma, dont on a tiré grammaire. Voilà, c'est la structure du texte, la grammaire. Et vous voyez, quand les Juifs, dans l'évangile de Jean, je crois que c'est au chapitre 7, quand ils interpellent Jésus, ils se posent la question, ils disent... C'est quand même bizarre, parce que Jésus, comment connaît-il les Écritures alors qu'il n'a jamais étudié? Vous voyez, parce que tout le monde dit « jamais homme a parlé comme tel homme », alors même les Juifs sont surpris. Comment connaît-il les Écritures? Et là, c'est grapha, c'est gramma, c'est gramma. Les Juifs ont détecté que chez Jésus, il y avait quelque chose de l'ordre de la structure de ce que Jésus disait. Et c'est pas étonnant, parce que Jésus sait la parole, il est les Écritures. Personnifié. Donc on va rentrer, on va quitter le superficiel, le texte est facile à comprendre, on va quitter le superficiel, on va rentrer dans le gramma. Et vous verrez que dans le gramma, il y a des choses vraiment intéressantes. Donc ce que je vous propose, hein, comme je vous ai dit, au lieu de vous faire un plan classique, premièrement l'exemple de Jésus, deuxièmement la correction et blablabla, et troisièmement les impératifs, on va aller un peu plus profond. Alors, le premier verset, comme je vous ai dit, « nous donc aussi ». C'est très important dans la Bible, il y a souvent, hein, et notamment dans les lettres qui font des démonstrations mathématiques, il y a souvent ces mots de liaison. Hein. Il y en a beaucoup dans l'Épître aux Romains, quand il explique la justification par la foi. Dans les premiers chapitres, il y a des mots de liaison. Et là, le « nous donc aussi », c'est en quelque sorte, parce que je vous ai parlé de tous ces héros de la foi, alors maintenant, revenons à nous. Nous, et l'auteur, il se met dedans. Nous donc aussi. Donc par conséquent, vu tout ce que je vous ai dit avant, vu tout ce qu'on a entendu, tout ce que vous avez compris, maintenant, à nous de jouer. C'est ça, en fait, qui est important. Nous donc aussi. Et ça sera d'ailleurs repris au verset 12. C'est pour ça que je me suis arrêté au verset 11. Normalement, mon texte, par la consigne, je devais traiter le verset 13, mais j'ai laissé tomber les deux derniers parce que ça fait plus partie de la deuxième logique. D'ailleurs, quand on regarde un peu la structure du texte, je vous ai fait un petit truc manuscrit, là. Vous voyez que vous avez une belle structure en chiasme sur tout le chapitre. C'est-à-dire que l'auteur commence par « nous », ensuite il parle à « vous », et puis après il se remet dedans. Après, il reparle à vous et il se remet dedans à nouveau. Vous voyez, il y a une alternance. L'auteur, un coup, il se met avec les auditeurs et un coup, il se sort et il donne des recommandations aux auditeurs. Et à chaque fois, il y a des verbes ou il y a des mots qui ont une importance, qui ont un poids considérable, qui ne ressort pas dans la lecture superficielle et c'est ce qu'on va voir. Et vous voyez, comme vous le savez, ça fait plusieurs fois que je vous parle de la structure en chiasme. Ce qui est important dans la structure en chiasme, c'est l'idée centrale que j'ai mise en rouge ici. Et cette idée centrale, c'est l'éducation corrective du Père. C'est de notre intérêt. Combien il y en a qui vivent des tribulations, des épreuves, des difficultés en ce moment? Levez la main. Qui vit des difficultés? Il y en a plein qui vivent des difficultés. C'est ça. C'est comprendre c'est quoi une difficulté aux yeux de Dieu dans la perspective du texte. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de voir. Vous voyez, l'auteur, il se met dedans parce qu'il est dedans. Et moi qui vous parle aujourd'hui, ne croyez pas que je suis venu vous donner la leçon, que je suis déjà un héros de la foi et que je vous dis, vous n'avez qu'à me suivre. Pas du tout, je suis en devenir exactement comme vous. Peut-être même, j'ai plus de trajets encore à faire que vous. Et je galère au quotidien, mais Dieu est en train de... Voilà, il me modèle comme le potier modèle son vase. Donc, on va traiter, nous, aujourd'hui, cette partie-là. Hein, et la partie suivante, je crois que c'est David qui va la traiter dans 15 jours. Et puis, il nous restera encore le chapitre 13 en termes de conclusion. Voilà ce que je vous propose donc pour aujourd'hui. Et on va donc faire une étude de mots. On va regarder les mots individuellement, on va regarder ce que ça veut dire. Alors, il n'y aura pas de plan structuré, c'est une succession de mots, mais ça va vous parler. Et puis, à la fin, je ferai une synthèse, un récapitulatif, et chacun partira avec ce que Dieu lui aura mis dans son cœur. Voilà ce que je vous propose donc pour aujourd'hui. Ça sera un peu inhabituel. Alors, au verset 1, ne vous inquiétez pas, parce qu'au verset 1, il y a un maximum de trucs. Vraiment, c'est colossal. Donc, si ça n'avance pas, prenez pas peur, on va y arriver. Alors, premièrement, au verset 1, une si grande nuée de témoins. Ici, ce que le texte nous dit dans l'original, c'est qu'il y a la notion d'une multitude innombrable. Il y a plus de gens que vous croyez qui sont des héros de la foi. Voilà. Vous n'êtes pas seul à galérer, il y en a plein. Souvenez-vous de Élie. Quand il était au Mont Carmel, il a obtenu une victoire colossale. Et ensuite, il a été menacé, il a fait une dépression. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu à sa dépression ? Je suis resté tout seul. Et Dieu lui fera comprendre plus tard qu'il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc parfois, on se sent seul dans une épreuve. Et en fait, il y a une grande nuée de témoins. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Et c'est ça que le texte souligne dans ces passages. D'ailleurs, le mot témoin, vous savez, c'est le mot qui a donné le mot martyr. Hein, le témoin, ce n'est pas juste celui qui annonce la parole de Dieu sur les marchés à Vénitieux. Hein, c'est super déjà. Mais c'est celui qui est martyr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous annoncez la parole de Dieu et vous pouvez vous prendre un coup, un rejet. Et dans certains pays, vous pouvez être emprisonné, même pour juste porter une Bible. Donc témoin, c'est le mot martyr. D'accord ? Alors, ensuite... Si on a compris ça, la Bible nous dit qu'on est devant un choix, d'accord ? Toujours dans ce premier verset, on a un choix. C'est-à-dire, environné, le mot environné ici, c'est ce qui est autour de nous. Donc, Dieu a placé autour de nous, il y a autour de nous un certain nombre de choses, d'accord ? Et puis, quand il est dit au verset 1, courir l'épreuve qui nous est proposée, le proposer, c'est exactement le même mot en grec, mais avec une préposition différente qui signifie devant. Donc, nous avons autour des choses et nous avons devant des choses. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, devant, on a le péché et nos fardeaux. Le péché qui nous enveloppe. Le péché est autour de nous et on doit faire un choix. C'est-à-dire... On a des fardeaux, on a notre propre fardeau, et on a le péché, parce que Satan nous tente en permanence. On a des tentations qui viennent. Et d'être entouré de tentations, ce n'est pas un péché. D'accord ? C'est Luther qui disait, je ne peux pas empêcher les corbeaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de se poser sur moi. Donc, vous voyez cette notion, ce mot environné et ce mot proposé, c'est le même mot, sauf qu'il y a juste... autour et devant. C'est ça la différence entre les deux. Et on a un choix. Donc, le choix, c'est soit on choisit le péché et le fardeau, c'est-à-dire si on ne fait rien, si je ne fais rien, si je me laisse faire, si je rentre chez moi, je me mets devant la télé, tranquille, tout ça, j'ai rien contre la télé, mais si, vous voyez, si je suis passif, hein, la télé, c'est un outil passif, si je suis passif, de toute façon, il y aura le péché, il y aura toujours mon fardeau. Par contre, je peux choisir l'épreuve. Courir l'épreuve. Et on verra ce que ça veut dire courir tout à l'heure. D'accord ? Donc, chacun de nous, on est placé devant un choix. Il y a trois éléments devant nous, le péché, le fardeau et l'épreuve. Et il y a un choix à faire. Il y a une bifurcation. Et pour être ce héros de la foi, il faut prendre la route de droite. c'est-à-dire rejeter le péché, rejeter le fardeau. Un peu comme le voyage du pèlerin, pour ceux qui ont vu la bande dessinée, à un moment donné, vous avez Chrétien qui a son sac à dos, là, il arrive au pied de la croix, et hop, il décharge le sac à dos, il se sent mieux. Ben, c'est un peu ça. C'est le fardeau, je le remets à Jésus. Seigneur, tu me demandes de courir l'épreuve, mais tu vois, j'ai ce fardeau, j'ai ces casseroles aux fesses, j'ai ce péché, Seigneur, je te confie tout ça. Il y a vraiment un geste actif. Donc la voie de droite, c'est actif, la voie de gauche, c'est passif, je subis. D'accord ? Et donc la suite du passage nous dit ce qu'il faut faire. Hein ? C'est-à-dire, il faut rentrer dans l'arène. Et vous savez que du temps des Grecs, les courses et les combats, quand il y avait par exemple des Jeux Olympiques, les gens couraient nus. Ils étaient tout nus. Ils couraient tout nus. Donc c'est l'image aussi. Vous voyez, si vous voulez courir, il faut vous débarrasser. Il faut comprendre le contexte de l'époque. Il faut vous débarrasser de tout ça. Et c'est une image qui parle aux gens. Ils savaient que les athlètes aux Jeux Olympiques, ils couraient nus. Ah oui, oui, c'est vrai, Philomène. Ils couraient nus. Oh là là. Quand même, quelle pudeur. Pff. Bon. Voilà, c'est l'image du chrétien qui dépose son fardeau. Et ça, c'est important de déposer son fardeau. Hein. Je sais pas, pour ceux qui lisent les feuillets du calendrier, aujourd'hui, on avait une exhortation de notre ami Arnaud, qui est là parmi nous, et qui nous parlait du silence devant Dieu, du temps mis à part. Et c'est pendant ce temps qu'on peut déposer notre fardeau. Voilà. Et vous voyez, le péché, il nous est dit dans ce passage que ce péché va peut-être nous obliger à résister jusqu'au sang. Alors nous, ça ne nous parle pas, mais nos frères nord-coréens, nos frères afghans, nos frères algériens, ça leur parle. Résister jusqu'au sang. Voilà donc ce début. Alors l'épreuve. L'épreuve, alors c'est pareil, l'épreuve, courir, on pense à la course. Et la plupart des traductions traduisent ce mot par l'épreuve. En fait, le mot grec original, c'est le mot agone. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, agone. Ça vous fait penser à quoi, agone ? Oui, tout à fait. Quand on regarde dans Luc 22, 44, c'est exactement le même mot qui est utilisé. C'est-à-dire que Jésus en agonie, d'accord ? Eh ben, c'est exactement le même mot qui est utilisé. Hein, Jésus, en agonie, priait si ardemment que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Vous connaissez ce texte. Donc ça veut dire que cette épreuve, c'est pas la petite course dont je vous parlais, le petit 60 mètres où je suis un peu essoufflé et puis voilà, ça va mieux après. C'est quelque chose qui est beaucoup plus costaud, parce que là, le dérivé, c'est le mot agone. Alors, il n'y a qu'un seul traducteur, c'est Jean Chouraki, hein, c'est un juif qui a traduit l'ensemble des Écritures. Il traduit par la présente joute. Au lieu de mettre l'épreuve, il met la présente joute. Et moi, je pense que le terme qui est plus correct ici, ça serait plutôt le mot combat qu'il faudrait mettre. Et je vais vous expliquer pourquoi le mot combat. La course qui nous est proposée, le choix, le fameux choix que vous avez vu, c'est vraiment un combat. Hein, et ça nous montre... Et ça, vous le savez aussi, que la vie chrétienne, ce n'est pas une promenade de santé. Hein ? Ouais, je donne ma vie à Jésus, je me fais baptiser, puis j'attends le ciel tranquille. Seigneur, viens bientôt. Alors, c'est juste doctrinalement, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Rien n'est plus faux que cette conception de la vie chrétienne. Et regardez à Jésus, par exemple, pendant 30 ans, lui, il était fils du charpentier, et ça, c'était OK. Et puis, dès qu'il a commencé à prêcher la repentance, c'est là que ça s'est gâté pour lui. Il a eu constamment de l'opposition et des controverses. Vous n'avez qu'à lire l'évangile de Jean, chaque fois qu'il y a un signe, il y a les juifs qui commencent à discuter, puis au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, ils disent on va le tuer, et ils fomentent ce projet dans leur tête. Et d'ailleurs, Paul disait à Timothée, je vous l'ai affiché tout à l'heure, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'accord ? Donc la vie chrétienne, c'est un combat qui est difficile, qui est douloureux. On est persécuté, on subit de l'opposition. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas dans la vraie vie chrétienne. Excusez-moi de le dire, mais c'est la réalité. Et vous voyez, ce mot agone, il apparaît 5 autres fois dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois, c'est en relation avec un combat qui est difficile et intense. Je vous mets les citations, Paul écrit aux Philippiens, à chaque fois il est traduit par le mot combat. Donc je ne sais pas pourquoi le traducteur a choisi épreuve, probablement du fait du mot courir. Hein, on verra que courir, c'est pas le petit jogging que je fais dans la rue, hein, ce sera beaucoup plus intense que ça. Hein. Et donc, et même au verset 4, hein, en luttant contre le péché ou en combattant contre le péché, ce mot, ça a la même racine que ce mot agone. Donc, vous voyez, l'épreuve qui nous est proposée, hein, le choix de droite, c'est un combat, d'accord, hein. Donc, cette épreuve qui nous est proposée, elle est un combat véritable qui a été mené de manière intense, hein, par Jésus. Hein, pensez à l'agonie, d'accord. Et c'était tellement intense pour Jésus qu'il a laissé sa vie, il a lui résisté jusqu'au sang. Et c'est le cas des nombreux héros de la foi qui ont été cités au chapitre 11, qui ont résisté jusqu'au sang. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus a été victorieux de ce combat intense. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Martial nous l'a dit tout à l'heure, il a été glorifié et il intercède pour nous, nous dit la parole de Dieu. Jésus intercède pour nous et il nous aide à mener ce combat. Hein, on l'a vu plus tôt dans l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en toute chose sans commettre le péché. Donc approchons-nous donc, nous dit l'auteur, du trône de la grâce. Ok, pour ce mot, épreuve. Alors ensuite, il y a trois mots. Persévérance, donc, qui est utilisé au verset 2. Alors, parfois, ça peut varier sur les versions. Hein. Courons avec persévérance l'épreuve. Alors, vous avez peut-être endurance. C'est des mots à peu près équivalents. Verset 3, celui qui a enduré, ça, c'est Jésus. Et puis, verset 7, supporter. Ben, c'est le même mot quasiment en grec. C'est la même signification. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que, vous voyez, ce que Jésus, il est au verset 3 et nous, verset 1 et verset 7. Ça veut dire que Jésus et nous, c'est la même chose. On a exactement le même type de difficulté, hein, à combattre et à surmonter. Et cette notion de persévérance, c'est une notion qui est présente dans toute l'Épître, hein, dans tout, pratiquement tous les versets. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous vous souvenez des études successives. Il y a toujours cette notion de persévérance, ne pas se relâcher. Vous avez soutenu un long et douloureux combat, nous dit le chapitre 10. N'abandonnez pas votre assurance. Le mot abandonner, c'est exactement la même chose, c'est la même racine. Et en 10:36, vous avez besoin de persévérance. D'accord ? Donc, toutes ces choses, c'est, encore une fois, ça nous donne une idée de la durée. D'accord ? Donc on a vu que le combat était intense et en plus c'est un truc qui dure. Vous voyez, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire « Oh là là, je me suis peut-être engagé un peu vite pour être un héros de la foi ». Ben oui, le héros de la foi, il faut s'accrocher, c'est pas facile. Donc c'est toutes ces notions d'endurance, de patience, rester stable, même dans les plus grandes souffrances, s'accrocher, faire face à des épreuves déstabilisantes. C'est toutes ces idées. On a les mêmes types de verbes, mais avec des formes grammaticales différentes. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe qui désigne Jésus, c'est un verbe qui est au parfait. C'est-à-dire c'est du passé, ça a été accompli, c'est fait, on peut s'appuyer dessus. Et pour nous, le verbe, il est à l'indicatif présent. Donc c'est en cours et on continue. Et je sais que certains d'entre nous passons par des épreuves particulières, difficile et qu'il faut s'accrocher, et c'est pour ça que l'auteur nous encourage. Mais retenez que le combat dont il est parlé, il est de la même nature que nous, d'accord ? Il est de la même nature que nous, il est juste dosé différemment selon Dieu, et c'est ça qui est formidable. Il est dosé différemment, et Paul nous dit, je ne l'ai pas affiché, mais Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, qu'aucune tentation, donc aucune difficulté, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu tout-puissant dont Martial nous a parlé au début, c'est un Dieu qui sait exactement doser ce que chacun peut supporter dans l'épreuve. Bien sûr, Jésus, la barre était placée très haute. Pour nous, la barre sera certainement moins haute. Et elle sera différente selon les membres de l'Assemblée. Mais le combat, il est de la même nature que nous. C'est pour ça que Paul, quand il parle aux Éphésiens au chapitre 6, vous connaissez cette image, on l'étudie à l'école du dimanche régulièrement, hein, prenez toutes les armes de Dieu, Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances qui sont dans les lieux célestes. Le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Satan est là pour nous faire tomber, il est là pour nous faire prendre la voie de gauche, alors que Dieu nous propose la voie de droite, et on verra tout à l'heure, on parlera de la discipline, et c'est cette discipline-là qui va nous faire progresser. Alors, on avance. Courons. Courons avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus. Alors, le mot « courons », c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un apax en grec, c'est-à-dire que c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Hein, un peu comme les lentilles, hein, on peut manger des lentilles, puis on peut se mettre dans les yeux. Alors on ne met pas des petites lentilles dans les yeux, enfin on ne met pas des lentilles au jus dans les yeux, et on ne mange pas des lentilles de contact. Mais voilà, pour vous expliquer, donc il peut signifier deux choses, il peut signifier courir, mais le plus souvent en grec, ce mot désigne encourir un péril qui est extrême, qui nécessite une concentration maximale pour la surmonter. Donc courir, ça serait presque courir, par exemple, si vous vous échappez d'une prison avec des matadors, des miradors avec des mitraillettes qui vous tirent dessus. Donc voilà, vous ne courez pas juste mon petit 60 mètres à l'école, mais vous courez avec un péril extrême qui nécessite d'être très concentré. C'est ça le mot courir, ce n'est pas une petite course. Donc vous voyez, on voit déjà, on est dans un combat, d'accord, qui est très intense, qui dure longtemps, et en plus, il faut que je mette toute ma vigilance, toute ma concentration. D'accord ? Les yeux fixés sur Jésus, tout à l'heure. Martial nous a encouragé à fixer les yeux sur Jésus. Là, le terme grec est encore plus fort parce qu'il y a deux notions. Il y a une préposition qui nous dit « examiner, discerner attentivement », d'accord, « essayer de comprendre » et il y a une partie du mot qui signifie « loin de tout le reste ». D'accord ? Il y a deux notions. Il y a discerner, comprendre avec attention et loin de tout le reste. C'est pour ça que l'auteur avant, il leur a dit « dégagez tout le reste, dégagez le péché, dégagez le fardeau, concentrez-vous sur Jésus. » Et ça, c'est difficile. Parce que si je me mets dans le silence et la solitude, et que je regarde à Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites quand vous regardez à Jésus dans le silence ? Vous avez plein d'idées qui vous viennent. Tous vos soucis qui commencent à arriver. « Ah ouais, mais il faut que je pense à faire ça. Ah ouais, c'est mon fils, il a fait ça. Ah, il faut que je téléphone à un tel. » Vous voyez, vous avez plein de choses qui vous distraient. Je ne parle même pas des réseaux sociaux, le téléphone qui sonne. « Tiens, j'ai une notification, il faut que j'aille voir LinkedIn. J'ai peut-être une affaire en cours. » Enfin, vous voyez, on a du mal à laisser les yeux sur Jésus parce qu'il faut se débarrasser. Hein. Et c'est ça, regarder à Jésus, les yeux fixés sur Jésus, c'est examiner attentivement et loin de tout le reste, éliminer tout le reste. Vous vous en souviendrez, j'espère. Jésus, l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. Jésus aussi a été placé devant un choix. D'un côté, il avait les souffrances et la croix, et de l'autre côté, céder aux tentations de Satan. D'un côté, vous avez une satisfaction immédiate. Et ça, vous savez, c'est le circuit de la dopamine. La satisfaction immédiate. Je vois un caramel, oh, il me fait envie. Là, vous avez un shoot de dopamine, vous vous jetez sur le caramel, vous enlevez le papier et vous le mangez. C'est ça, hein ? La satisfaction immédiate. Aujourd'hui, on vit en permanence dans notre monde perfusé par des shoots de dopamine. Ça peut être ça, ça peut être un feuilleton, ça peut être j'ai publié une photo sur Instagram, et puis là, soudain, je m'aperçois que j'ai 25 likes. Ouh, shoot de dopamine. Ce qui fait qu'après, ben, je repasse du temps à remettre des photos parce que je me dis je vais en revoir encore. Bref, ça, c'est la satisfaction immédiate de ses désirs charnels. Mais Jésus, il n'a pas fait ça. Ça, c'est la voie de gauche. Jésus, il a accepté la souffrance et la croix, et là, il faut attendre. D'accord ? C'est-à-dire la joie, elle est pour aboutissement, et l'élévation, elle vient après. Et ça, ce n'est pas facile. Et il y a plein d'autres héros de la foi. Abraham, Moïse. Abraham, il a accepté de vivre sous des tentes. Moïse, il a accepté de renoncer à la gloire de l'Égypte parce qu'il avait les yeux, nous dit, fixés sur la rémunération. Et à contrario, on le verra la prochaine fois, Ésaü, juste pour un plat de lentilles, satisfaction immédiate, il a pris son plat de lentilles, il a perdu son droit d'aînesse, après c'est fini. Hébreux 6, pas de repentance possible. Voilà, alors, On va avancer encore. Le verbe considérer. Là aussi, le verbe considérer, c'est pas lire superficiellement, c'est littéralement analyser, peser, réfléchir, méditer, vraiment passer du temps dessus. Quand il est dit considérer celui qui a enduré une telle opposition, c'est méditer sur l'opposition de Jésus. Ce verbe considérer, c'est ça que ça veut dire. Alors, on va terminer par la correction, ou ce qui est appelé correction, discipline du Seigneur. Alors, ce mot correction, il intervient 8 fois dans ces 6 versets. Donc, ça veut dire que c'est très important. Si j'ai surmonté tout ce qu'on vient de dire, j'ai compris le poids des différents mots, j'ai envie d'avancer quand même, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais rentrer dans un mécanisme qui s'appelle l'éducation préventive ou corrective du Seigneur. C'est-à-dire que je dis « Oui, Seigneur, j'accepte avec joie, enfin, j'accepte avec volonté, on va dire, parce que joie, ce serait un peu exagéré. » Voilà, et cette la correction du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot « correction » hein, je vous ai mis une définition ici qui est, je pense, assez parlante. Je vais la lire pour ceux qui écoutent à distance. C'est toute l'éducation des enfants relative à la culture de l'esprit et de la moralité et qui utilise dans ce but, tantôt des ordres ou des avertissements, tantôt des réprimandes ou des punitions. Cette éducation inclut également l'exercice et le soin du corps. Ce sont des instructions qui visent à un accroissement de la vertu, c'est tout ce qui cultive également l'âme, même chez les adultes, surtout en corrigeant les fautes et en bridant les passions. Vous voyez que ça ne concerne pas que les enfants. Les enfants, il faut le faire parce que dès le départ, tout est tordu, il faut redresser. Mais chez les adultes, il y a encore parfois du boulot, enfin en moi-même en tout cas. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces corrections, elles s'adressent à des fils. Voyez. Alors les fils, c'est qui? C'est ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés, qui ont été adoptés dans la famille de Dieu, qui ont reçu l'Esprit du Christ. C'est tout ça. Et vous voyez, l'Épître aux Hébreux, elle démarre par cette affirmation, Dieu nous a parlé dans le Fils. Le Fils, nous sommes des fils et Dieu nous a parlé dans le Fils. Donc Jésus, c'est le précurseur, c'est notre frère, nous sommes des fils de Dieu. Et là, l'auteur va mettre en parallèle la correction imparfaite de notre Père terrestre, qui faisait souvent au mieux. Et souvenez-vous de votre Père. Et je sais que pour certains, c'est difficile de se souvenir, parce que ça a été catastrophique. Certains d'entre nous ont eu un Père catastrophique. Ils ont du mal à s'identifier avec Dieu le Père. C'est vraiment difficile. Là, ça nécessite vraiment un travail profond en soi. Peut-être même un travail de thérapeute pour essayer de découpler cette image du Père terrestre qui a été totalement insuffisant et pour passer à l'image de Dieu le Père céleste. Et là, 2 dangers, nous dit le texte, guettent le Fils, les fils que nous sommes. D'une part, prendre à la légère la correction, c'est-à-dire j'ai une correction de la part de Dieu et je me dis ça passera. Et puis si on la prend à la légère, qu'est-ce que fait Dieu? Si Dieu veut nous emmener là où il veut nous emmener, il va la remettre et la remettre et la remettre. Et à un moment donné, il faudra quand même le prendre au sérieux. Et puis le deuxième danger, c'est de se décourager devant la lourdeur de la correction. Parfois la correction est vraiment dure, j'en peux plus, c'est trop lourd pour moi. D'accord? C'est pas facile à répondre à cette question, J'ai pas beaucoup de conseils à vous donner, si ce n'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu sait doser la correction, qu'il a un but précis pour chacun de nous, selon nos capacités, il a un but à atteindre, et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre en temps voulu ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Parce que si je ne comprends pas, comme je vous l'ai dit, Dieu risque de remettre le couvert encore. Et je peux être coincé longtemps dans une situation jusqu'à ce que je comprenne et que j'apprenne. Donc il faut comprendre que Dieu dose, parce que Dieu est un père d'amour. D'accord ? Si on n'a pas compris l'amour de Dieu, on va voir la correction, on va lever le poing en disant « Seigneur, c'est pas normal, regarde lui et moi. » Vous voyez ? Mais si on comprend que Dieu est amour, on sait qu'il nous corrige pour notre bien, comme dit la Bible, pour nous faire participer à sa sainteté. Et plus que regarder la cause, essayer de comprendre pourquoi, il vaut mieux regarder la finalité. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Dans quelle optique est-ce qu'il m'arrive ça? Qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre? Vous voyez, c'est les bonnes questions à se poser. Et au verset 10, il est dit, c'est notre sanctification qui est en jeu. C'est notre sanctification, c'est pour ça que Dieu nous applique cette correction. Et pour ceux qui ont été ainsi exercés, eh bien, la discipline va produire un fruit paisible de justice. Alors le mot exercé, encore une fois, on pourrait en parler, c'est le mot qu'a donné gymnase. Encore une fois, c'est entraînement. D'accord ? Donc elle produit pour ceux qui ont été exercés, c'est-à-dire pour ceux qui se sont entraînés à devenir ces héros de la foi, c'est-à-dire qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qui leur arrivait, pourquoi Dieu faisait ça et ça et ça et ça, qui ont compris Jésus-Christ, qui avaient les yeux fixés sur lui, qui se débarrassent de leurs péchés, qui les rejettent loin, eh bien c'est un entraînement qui produit un fruit paisible de justice. Et là, fruit paisible de justice, comment ne pas penser à l'image de l'évangile de Jean, au chapitre 15, où Jésus se compare à un cep sur lequel nous, serments, nous sommes attachés, et le Père est le vigneron. Je trouve cette image extraordinaire parce que c'est un changement de dispensation. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le Père, c'était le propriétaire, il était loin, il était inaccessible, et puis de temps en temps, il envoyait un serviteur pour récupérer les produits de la vigne. Et là, le Père devient le vigneron. C'est lui qui a le sécateur, il dose exactement ce dont on a besoin. Et il y a ces trois étapes dont nous parle l'évangéliste Jean. Porter du fruit, d'accord ? Mais celui qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits, deuxième étape. Et puis, troisième étape, c'est le beaucoup de fruits, d'accord ? Beaucoup de fruits qui va glorifier le Père et ainsi vous serez mes disciples. C'est donc là toute la notion de récompense après la souffrance. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de dire sur ce texte. Si je veux résumer rapidement, donc suivre Jésus, c'est un combat, je crois que vous l'avez compris. Il faut délivrer un effort intense et régulier. Il ne sera pas long, il aura quelques années terrestres, mais devant nous, c'est l'éternité. Alors c'est difficile de comprendre avec nos esprits limités qu'est-ce que c'est que l'éternité quand je suis dans la galère ici-bas. C'est quoi l'éternité? J'ai du mal, mais voilà. C'est ce que nous dit en tout cas le texte des Hébreux. Nous avons des modèles, les héros de la foi, et nous avons Jésus. Il faut regarder intensément et exclusivement à Jésus, rejeter tout le reste. Souvenez-vous du mot « regarder à Jésus ». Jésus nous a précédés, il a été victorieux, il a ouvert la route, d'accord, au travers du sanctuaire. Il y aura des récompenses, d'accord, c'est pas le circuit de la dopamine, mais c'est la dopamine XXL céleste. Je ne sais pas comment elle sera d'ailleurs, il faudrait demander à un médecin, mais je pense que les médecins même ne le savent pas. Et puis la finalité, c'est notre sanctification. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Voilà, l'objectif c'est ça, c'est notre sanctification. Si nous voulons voir le Seigneur face à face, si nous voulons ne pas avoir à rougir devant lui, c'est ce que Dieu nous demande. Et j'aimerais conclure par cette citation d'un des héros de la foi, David a cité George Muller, moi je vais citer Hudson Taylor. Je trouve que j'aime beaucoup Hudson Taylor, vous le savez. Voilà ce qu'il dit, il faut que nous nous donnions nous-mêmes pour la vie du monde. Une vie facile, sans renoncement à soi-même, n'aura jamais de puissance. Porter du fruit implique de porter sa croix. Il n'y a pas deux Christ. Retenez bien ça, il n'y a pas deux Christ. L'un peu exigeant pour des chrétiens qui vivent une vie facile, et l'autre souffrant sans cesse en travail pour les croyances exceptionnelles. Il n'y a qu'un seul Christ. Et je termine sur cette question d'Hudson Taylor qui nous pose plus de 100 ans après. Voulez-vous demeurer en lui et ainsi porter du fruit? Prions. Notre Dieu, ta parole est vraiment merveilleuse, Seigneur. C'est incroyable. Nous avons tout ce qu'il faut. Comme disait l'apôtre Pierre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. Seigneur, tu as vraiment tout donné, tu as donné ta vie, tu es assis maintenant à la droite de Dieu, nous te voyons, nous te contemplons à la droite de Dieu, intercédant pour chacun de nous, parce que parfois l'épreuve est douloureuse, difficile, elle mord, mais Seigneur, toi tu es là, et merci encore d'être à nos côtés. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, dans nos faiblesses, dans nos insuffisances. Nous avons besoin tellement de ta grâce pour comprendre ces choses, pour nous engager, pour rejeter tout fardeau. Aide-nous, Seigneur, dans cette tâche. Amen.